Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Aujourd'hui, nous parlerons de la foi comme une question de volonté. Dans nos études précédentes sur la foi, nous avons constaté que, selon la Bible, la foi que Dieu demande comporte deux aspects. La conviction que certaines choses sont vraies et une confiance active qui est basée sur cette conviction. Nous avons vu en plus que cette conviction n'est pas basée sur ce que nous avons vu de nos yeux, car dans ce cas, on ne parlerait pas de foi. Ce n'est pas pour cela que la foi est contraire à la raison. Non, car la plupart de nos convictions dans la vie, même en dehors de la religion, ne se basent pas sur ce que nous avons personnellement vu de nos yeux. Au contraire, nous acceptons toutes sortes de choses comme étant vraies parce que nous avons confiance aux sources de nos renseignements. Nous avons souligné aussi que la foi, comme la Bible l'entend, est personnelle, mais elle n'est pas subjective. Elle se rapporte à des choses qui sont objectivement vraies. Que nous les reconnaissions ou pas, qu'elles produisent en nous des sentiments de bien-être ou pas. Enfin, nous avons vu que la foi chrétienne est défendable. Il ne s'agit pas d'un saut dans l'irrationnel. Dieu a fourni des preuves de son existence et de la vérité de sa parole. Des preuves dans le monde naturel, des preuves historiques, des preuves logiques et des preuves dans la nature de l'homme lui-même. S'il existe tant de preuves en faveur du christianisme, pourquoi tant de personnes, y compris des personnes intelligentes et bien instruites, ne croient ni à la Bible, ni en Jésus, ni même à l'existence de Dieu? La réponse est que l'homme est doté non seulement d'une intelligence, mais aussi du libre arbitre, de la faculté de choisir. Nous ne sommes pas des robots, chacun a une volonté. L'épreuve qui s'étale devant nous ne nous oblige pas à faire le choix le plus raisonnable. Mais cette liberté de choix fait que nous sommes responsables de nos décisions. Dans l'évangile de Jean, Jésus parlait avec des Juifs concernant les prophéties incontournables qui avaient été faites à son égard des siècles avant sa naissance. Il leur dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5, 39 et 40. L'obstacle à leur foi n'était pas un manque de preuves. L'obstacle était au niveau de leur volonté. La même idée ressort des paroles que Jésus prononce quelques chapitres plus loin. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Jean 7, verset 17. On voit la même logique dans les propos de l'apôtre Paul concernant les païens. Depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient dans les œuvres qu'il a faites. C'est là que les hommes peuvent les connaître, de sorte qu'ils sont sans excuse. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire pour Dieu. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, pour qu'ils fassent ce qu'ils ne devraient pas faire. Romains 1, versets 20, 21, 25 et 28. Le cœur, dans la pensée juive, n'était pas le siège de l'émotion, comme c'est le cas dans notre langage aujourd'hui. Pour l'émotion, on parlait des entrailles. Colossiens 3, verset 12, par exemple, nous demande de nous revêtir d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Le cœur, parmi les Juifs, était considéré plutôt comme le siège de la volonté. Ce n'est pas là où l'on ressent, c'est là où l'on décide. 1 Corinthiens 7, verset 37. C'est là où sont cachés les desseins. 1 Corinthiens 4, verset 5. On obéit du cœur. Romains 6, verset 17. Quand on se révolte, c'est qu'on s'est endurci le cœur. Hébreux 3, verset 8. Et c'est du cœur que l'on croit. Acte 10, verset 10 et Acte 8, verset 37. Parce que croire, c'est une décision. C'est un acte de la volonté. Placé devant l'épreuve en faveur de Dieu et de sa parole, on doit toujours prendre une décision de les reconnaître ou de continuer de les nier. Voilà pourquoi le Seigneur n'est pas injuste quand il dit en Marc 16, verset 16, « Celui qui ne croira pas sera condamné. » Certaines personnes raisonnent ainsi. Qu'y a-t-il de moral ou d'immoral à croire une série de déclarations? On accepte ou rejette une affirmation parce que l'évidence paraît bonne ou mauvaise. Si un homme se trompe, cela ne signifie pas que c'est un homme mauvais. Il serait seulement pas très intelligent. Mais ce raisonnement n'est pas très réaliste. Trop souvent, les hommes croient ou refusent de croire quelque chose pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'épreuve. Pareillement, ils cessent parfois de croire quelque chose parce que cela ne les arrange plus de croire ou parce que leurs émotions s'attaquent à leurs convictions. Considérez les exemples fournis par un ancien athée devenu croyant. Il dit « Je croyais en fait que l'esprit humain était entièrement régi par la raison. Or, il n'en est rien. Par exemple, ma raison est parfaitement convaincue par l'évidence que l'anesthésie n'est pas insupportable et qu'un chirurgien expérimenté ne commence pas l'opération tant que le patient n'a pas sombré dans l'inconscience. Mais cela ne change rien au fait qu'une fois allongé sur la table d'opération, une panique enfantine me saisit. Je pense que je vais étouffer et j'ai peur qu'on commence à me charcuter avant que je ne sois complètement endormi. En d'autres termes, je perds la foi dans l'anesthésique. Ce n'est pas la raison qui chasse ma foi. Au contraire, ma foi se fonde sur la raison. C'est le fait de mon imagination et de mon émotion. La bataille se livre entre la foi et la raison d'un côté, l'émotion et l'imagination de l'autre. Supposons que la raison d'un homme le pousse à accepter l'évidence du christianisme comme irréfutable. Que lui arrivera-t-il par la suite? Il reçoit de mauvaises nouvelles, ou il se trouve dans des problèmes graves, ou il vit avec des gens qui se moquent de sa nouvelle croyance. De telles situations font que ses émotions reprennent le dessus et risquent d'écraser sa foi comme sous un bombardement. Ou bien, il arrivera qu'il convoite une femme, ou il veut mentir, ou l'orgueil l'envahit, ou il voit l'occasion de faire un peu d'argent par un procédé malhonnête. En d'autres termes, il se trouve dans une situation où il lui serait plus commode si le christianisme n'était pas vrai. Une fois encore, les souhaits et les désirs de cet homme balayent tout. Je n'évoque pas les heures où les raisons nouvelles et valables contre le christianisme apparaissent. Ces moments-là, il faut les affronter. Mais c'est alors une autre question. Je parle seulement des instants où une simple saute d'humeur prend le contre-pied de notre croyance. Or, la foi, dans le sens que j'utilise ici, est l'art de s'accrocher aux certitudes que votre raison a acceptées, une fois pour toutes, en dépit des variations d'humeur. Car votre humeur changera, quel que soit le point de vue qu'adopte votre raison. Je le sais par expérience. Maintenant que je suis chrétien, je subis des sautes d'humeur au cours desquelles toute croyance religieuse paraît fort improbable. Mais quand j'étais athée, j'avais de même des dispositions d'esprit où le christianisme me semblait fort probable. C.S. Lewis, dans Les fondements du christianisme. Monsieur Lewis conclut avec cette observation qui ne doit surprendre personne. Il faut s'assurer que, si vous acceptez le christianisme, ses principales doctrines doivent occuper délibérément votre esprit un certain temps chaque jour. C'est pourquoi la prière quotidienne, la lecture de la Bible et l'assiduité au culte font partie intégrante de la vie chrétienne. Nous avons besoin de rappels continuels de ce que nous croyons. Cette croyance, pas plus qu'une autre, ne restera automatiquement vivante en notre esprit. Il convient de la nourrir. En réalité, si l'on considère 100 personnes ayant perdu la foi chrétienne, je me demande combien parmi elles l'ont perdu à cause d'un argument raisonnable. La plupart des gens ne partent-ils pas simplement à la dérive, petit à petit? Quand j'étais adolescent, un adulte s'est adressé à nous les jeunes dans l'église. Il nous a dit très simplement que dans 20 ans, certains d'entre nous ne seraient plus dans l'église. Il a précisé que ce ne serait pas parce que nous aurions examiné la Bible de nouveau et que nos études nous auraient amenés à changer de position. Non, dit-il, ce sera parce que vous aurez commencé à mener un style de vie qui ne s'accordera pas avec la parole de Dieu. À cause des péchés et des valeurs qui ne seront pas prêts à abandonner, certains d'entre vous vont plutôt abandonner leur foi. C'était une autre manière de nous dire que la foi est une décision. Elle se base sur des preuves rationnelles, mais elle dépend aussi de notre volonté. Puisqu'il en est ainsi, je vous exhorte à faire deux choses. D'abord, veillez sur votre vie et ne vous mettez pas à agir de manière contraire à vos convictions. Ne créez pas un conflit entre votre comportement et ce que vous avez accepté comme vérité. Ensuite, prenez le temps chaque jour de nourrir votre foi, de vous rappeler pourquoi vous avez accepté de suivre Jésus. Lisez sa parole. Lisez d'autres écrits qui appuient la parole de Dieu et la confirment. Cherchez à passer du temps avec d'autres personnes de foi sincère, dont la conversation vous rend plus fort. Rappelez-vous que la foi, c'est aussi l'art de s'accrocher aux certitudes que votre raison a acceptées une fois pour toutes, en dépit des variations d'humeur.
Dès que je me réveille, je pense à toi, Seigneur, dont l'amour ensoleille en secret tout mon cœur. Vers toi va ma prière pour te remercier d'avoir la vie entière daigné me protéger. Flow to show self.